بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. شيخ الإسلام، نرمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité ce soir de commencer le dernier chapitre, le dernier sourat du 30e juz, du 30e sipara, Amma Yatasa'alun. Et la sourate qu'on va voir ce soir, Inch'Allah, c'est la sourate An-Naba, qui est traduite en français par la nouvelle. Cette sourate est makkiya, elle a été révélée à Makkatul Mukarrama, et nous allons vite comprendre pourquoi est-ce que c'est une sourate makki. On va voir à travers les versets qu'est-ce qui oppose les mécréants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui donne l'orientation au contenu de ces versets. Ce sont là des preuves qu'Allah azza wa jal donne à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre en évidence la venue du Qiyama. C'est, comme dans beaucoup de versets makki, des preuves à travers l'unicité d'Allah de la création, pour que ces mushrikines de Quraysh, ces polythéistes de Quraysh qui acceptent que Allah les a créés, mais qui n'acceptent pas qu'il faut vouer un culte unique à Allah Azza wa Jal, qui acceptent qu'il faut un jour mourir, mais qui n'acceptent pas qu'un jour on sera ressuscité et retourné auprès d'Allah Azza wa Jal, pour que ces personnes comprennent et réalisent la puissance de leur Seigneur, la puissance d'Allah Azza wa Jal, et réalisent donc que celui qui les a créés, qui les a donné la vie, qui a insufflé, qui a fait insuffler ruh dans leur corps, qui leur a donné ce corps, ben ce créateur, subhanallah, est capable, sans le moindre doute, de les faire renaître à partir de rien après leur décès. Le premier verset, Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement ? عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ, sur la grande nouvelle, الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ, à propos de laquelle ils divergent. Alors, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Le pronom personnel « ils », bien sûr, ça se rapporte aux mushrikines, aux polythéistes de Quraysh, à l'époque du début de l'islam, lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam reçoit les versets, et que notre prophète alayhi salatu wassalam a commencé donc cette marhala, cette période de prêche ouverte, ou la prêche qu'on appelle da'wa jahriya, cette prêche qui est ouverte à l'ensemble des Mekwa. Et les Ahl-e Makka, parmi les polythéistes, lorsqu'ils entendent les versets que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit régulièrement de la part de son Seigneur, ils se sentent très mal à l'aise. Est-ce qu'on peut éteindre les ventilateurs? Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait tourner les pages aussi. Et ça nous oblige à... En général, les gens veulent le ventilateur, nous on veut éteindre. Donc on fait faire des économies à la masjid, mais c'est agaçant comme bruit. Barakallahu fikum. Je dis que les polythéistes de Quraysh, lorsqu'ils entendent les versets révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Parce que d'un côté, ils comprennent, ils savent pertinemment qu'il y a une vérité à travers ces paroles. Étant les plus grands spécialistes de la langue arabe, même le moins érudit, le moins savant en langue arabe parmi les Quraysh, il est beaucoup plus fasih, il est beaucoup plus éloquent que n'importe quelle personne, n'importe quel docteur en langue arabe à notre époque. Parce que les Quraysh, mashallah, alhamdulillah, ce calme-là, ça nous fait plaisir. Alhamdulillah. Les Quraysh, par excellence, c'était les personnes qui maîtrisaient la langue arabe. C'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles le Coran a été révélé à Mecca, parce que dans Makkatul Mukarrama, vous avez les plus grands spécialistes de la langue arabe à cette époque et donc jusqu'à la fin des temps. Les Quraysh, donc, quand ils entendent les versets, ils sont interpellés parce qu'ils voient qu'à travers cette éloquence, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de surhumain, il y a quelque chose de surnaturel qu'aucun parmi eux n'est capable d'apporter un texte qui a un même contenu, une même profondeur que le Coran. Et on ne va pas trop revenir vers les introductions. Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début en 2003, Bi'idhnillah, qu'on avait commencé le tafsir, on avait démarré avec une introduction et on avait expliqué la différence entre les versets makki et madani par rapport au contenu. Mais ça, en général, on connaît la différence entre les versets de Makkah et de Madina en termes de contenu. Maintenant, en termes de par rapport à la construction même des phrases, vous remarquez que la plupart des versets qui sont révélés à Makkah, ce sont des phrases très courtes. Amma yatasa'alun, c'est un verset. Anin naba'il 'azim, c'est un verset, c'est une phrase complète. Alladhi hum fihi ikhtalifun, trois mots, quatre mots grand maximum, ce sont des phrases choc. Ce sont des phrases que les Quraysh, ton ami est arrivé. Je l'ai cherché depuis tout à l'heure. Hein. Les Quraysh entendent ces phrases, ce sont des petites phrases très courtes qui percutent l'esprit de celui qui entend et il le mémorise. On l'entend une fois, qu'on le veuille ou non, ces versets, surtout pour les gens qui ont une telle maîtrise de la langue arabe, donc quand ils entendent des phrases aussi bien construites, ça marque les esprits et donc ils finissent par les intégrer. Et donc, yataraddad, ces versets restent dans leur esprit et le contenu est très puissant. C'est-à-dire chaque micro-phrase, chaque petite phrase est porteur d'un message, est porteur d'un nour, d'une lumière. Ce qui fait que, imaginez que les ayats de Makki, c'était des grands versets qui font deux lignes et demie, comme il peut y en avoir dans d'autres versets madani. On va dire qu'il n'y aurait pas eu le même impact sur ces gens. Le fait que ce soit des versets très courts, des phrases simples, mais simples, excusez-moi, le terme n'est pas adapté, simples par rapport à leur construction, mais dans sa simplicité, il y a cette magie qui en fait divine, la parole d'Allah. Il y a en juxtaposant Amma yatasa'alun ou Anin naba'il 'azim, en juxtaposant deux mots ou trois mots, il y a en même temps cette étincelle, cette beauté qu'on ne retrouvera dans aucun autre texte en arabe. C'est-à-dire même des phrases extrêmement courtes sont porteurs d'un message très puissant, mais le style également est impressionnant. Et comme c'est un message percutant qui interpelle les Quraysh directement sur les questions qu'ils se posent, dire que le Coran ce n'est pas de la philosophie non plus. C'est pas qu'on parle des choses en général, de la création. On parle pas de la création pour philosopher sur la création. Non, on parle de la création. On va voir tous les versets qu'on a cités du 2, à peu près du 4 au 16. Tous ces versets parlent de la création d'Allah. Et comme on a pu voir dans Wannaziat, comme on a pu voir dans Abasa wa Tawalla, comme on a pu voir dans énormément de sourates de Amma yatasa'alun du 30e juz, on parle souvent de la création, mais encore une fois, le but n'est pas juste de décrire la beauté, ce n'est pas un texte descriptif, littéraire, descriptif, qui a pour but de montrer la beauté de la création. Non, le but c'est que ces gens qu'ils prennent conscience, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez la terre sur laquelle vos pieds sont posés, regardez les dattiers qui poussent, regardez vos chameaux, comment est-ce qu'ils sont constitués, regardez l'alternance entre le jour et la nuit, l'alternance entre l'été et l'hiver, regardez les cieux, regardez comment les montagnes ont été construites. Il a réalisé Alik, ces versets ont pour but de réveiller l'âme de ces personnes qui est endormie et détournée par le diable, par Shaitan, pour qu'ils prennent conscience à travers les choses qui les entourent, qu'ils réalisent la présence de leur Seigneur et la puissance, la qudra de leur Seigneur et, parce que jusque là ils savent que c'est Allah qui a tout créé, mais qu'ils réalisent que celui qui a tout créé, sachez ô Quraysh, celui qui a tout créé, lui seul mérite d'être adoré. Les ramener vers l'unicité d'Allah dans le culte, dans le ibad. Donc, Amma yatasa alun, on reprend, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? On parle des mukadhibun bil Qur'an. Alors, il y a deux opinions qui se dégagent. Certains savants disent, à propos de quoi donc? Sur quoi ils s'interrogent mutuellement? Sur la grande nouvelle. Certains disent que la grande nouvelle c'est le Qur'an. D'autres disent c'est l'ensemble du contenu du Qur'an. Et d'autres disent c'est le Qiyama précisément. On pourrait dire que les trois, c'est valable pour les trois. Les Quraysh se posaient des questions sur le Qiyama. Ils se posaient des questions également sur
La révélation, comme on a dit, ce qui les a interpellés. Donc, il y a une phrase qu'on a commencé, on n'a pas terminé. Quand ils entendaient les versets, ils étaient très mal à l'aise. Ils n'étaient pas dans une position où ils décrètent unanimement que c'est de la fausseté. Ils ne pouvaient pas le faire. Et, subhanallah, quand on lit les hadiths des premiers joies de l'islam, lorsque les intelligents, on ne parle pas des personnes comme Abu Lahab ou Abu Jahal, ils avaient ce qu'on appelle Jahl Murakkab, hein, une ignorance qu'ils cultivaient, d'accord? Les autres responsables de Quraysh, en même temps, ils condamnent le fait que leurs fils, leurs femmes et enfants aient quitté la religion de leurs ancêtres, mais en même temps, on sent dans leur discours, dans la manière d'échanger entre eux, une certaine admiration pour les valeurs véhiculées à travers les versets du Coran. Donc en même temps, ils veulent condamner, mais ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs qui sont prônées par le Coran. Et en même temps, ils reconnaissent la beauté, l'éloquence, et c'était des perfectionnistes, comme on a dit. Les Quraysh étaient des perfectionnistes en langue arabe. Donc du coup, lorsqu'ils voient un texte parfait qui les dépasse tous, ils sont enflés en admiration. Mais la plupart d'entre eux essayaient de cacher cette admiration secrète qu'ils avaient pour le Coran. Et certains, à un moment donné, faisaient i'lan, ils annonçaient qu'ils embrassaient l'islam. Ensuite, ils connaissaient les périodes de difficultés, ils étaient persécutés jusqu'à certains donc en Abyssinie et enfin aller à Madina, à Munawara. Donc, il n'y a pas eu une personne qui a condamné de l'ensemble, sincèrement, profondément, le message du Coran. Ou alors, c'était une condamnation d'apparence, parce qu'intérieurement il savait que c'était haq, il savait que c'était la vérité, par rapport à la présentation, par rapport à l'éloquence qui n'est pas humaine, par rapport au contenu qui les interpelle, par rapport aux sujets qui sont traités, qui les concernent directement, qui met en avant les doutes qu'ils ont et qui met en avant les incohérences de leur façon de vivre, les incohérences de leur croyance. Lorsqu'on interpelle les Quraysh et qu'on dit que, par exemple, si une mouche se pose sur l'idole, est-ce que cette idole, ce morceau de pierre, peut s'en débarrasser? Comment donc, en ce sens, je retraduis le sens du verset, comment pouvez-vous donc vouer le culte à un être qui ne peut même pas se défendre contre une mouche? C'est quand même des questions qui les interpellent. Ils finissent par se remettre en question. Donc par rapport à tout ça, le Coran finissait par pénétrer leur cœur, par faire un effet. Et ceux qui refusaient, c'était vraiment des gens qui voulaient le batil. Des gens qui voulaient rester dans le faux parce qu'ils avaient des avantages à rester des zuhama. Ils savaient qu'en acceptant l'islam, et que si l'islam entrait totalement à Mecca, ils perdaient les avantages qu'ils avaient. Parmi les avantages que les Quraysh avaient, c'était entre autres le fait de donner l'eau de Zamzam aux pèlerins. C'était d'imposer l'achat des vêtements que les Quraysh vendaient aux pèlerins. Vous savez, dans le Jahiliya, ils interdisaient aux personnes, aux Arabes, avant l'islam, hein, parce que vous savez que le Hajj a toujours existé, ils interdisaient aux Arabes de mettre leurs vêtements à eux, pour faire le tawaf. Soit ils achetaient les vêtements avec les Quraysh, ou alors ils devaient venir le soir, tard de la nuit, et faire le tawaf. Qui connaît? Uryanan, sans vêtements. Jahiliya, ignorance totale. Ils profitaient de la venue des pèlerins pour gagner de l'argent. Ils étaient également les responsables de Al-Lat, Al-Uzza, Manat, Na'oud Billah, des idoles qui étaient adulées en finalité par toutes les tribus arabes. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passait. Peut-être que certaines tribus avaient, d'accord, une franchise de ces idoles de leur village, mais l'original, c'était là-bas, d'accord. C'était à Mecca, où il y avait le vrai, the Lat, the Uzza, et eux, ils avaient donc des copies, mais ils vénéraient ces idoles. Et qui était responsable de ces idoles? Les Quraysh. Donc c'était Sharaf, c'était un grand honneur. Les Quraysh, entre autres, étaient reconnus pour le commerce, ainsi de suite, mais reconnus également pour être les responsables, les chefs de ces idoles qui étaient adorées par énormément de tribus arabes à travers la péninsule arabe, Jazirat al-Arab. Ce qui veut dire qu'en acceptant le tawhid, « Aj'al al-alihata ilaha wahida », comment? Oh Muhammad, dis ce que tu veux. Qu'il faut aider les pauvres, qu'il faut nourrir l'orphelin, qu'il faut héberger la femme qui a perdu son mari, qu'il faut faire... On est d'accord, mais ne viens pas, surtout s'il te plaît, ne viens pas nous dire qu'il faut arrêter de vénérer ces pierres et qu'il faut adorer un seul Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas de ça. Ils savaient entre autres qu'ils allaient perdre tous les avantages en acceptant le tawhid. Donc qu'est-ce qui fait que certains parmi les Quraysh n'ont jamais accepté l'islam? La fierté, l'orgueil, l'attachement à l'honneur, les biens matériels. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas accepté. Pareil pour Pharaon, si on analyse Tarikh al-Rusul, l'histoire des prophéties, Pharaon avait, dès le départ, Pharaon avait compris que Moussa était l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Pharaon avait compris. Il y a pas mal de versets. Le verset ne me revient pas. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'ils, intérieurement, ils avaient compris. Ils savaient que c'était le haq, mais par fierté et par orgueil, ils ne voulaient pas accepter la prophétie de Moussa alayhi salam. Il en était de même pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un malaise à Mecca lorsqu'ils entendent ces versets. Donc, ils divergent. Certains donc pensent que c'est à propos du contenu du Coran, et d'autres savants, ils disent que leur divergence était plus axée sur la révélation, sur le Qiyam. On pourrait dire que dans ce verset, effectivement, par rapport à l'enchaînement des ayats avec le verset, si on le retrouve, bismillah. Oui, avec l'interprétation qui revient le plus souvent dans le verset 5, on cherchait qu'Allah sayalamoun, thumma qu'Allah sayalamoun. Oui, dans le verset 5, l'interprétation qui vient le plus souvent, c'est qu'ils vont se rendre compte de la véracité le jour où ils verront le qiyama, la résurrection. C'est pour ça que la majorité des savants, ils sont d'avis que l'objet de divergence chez les Quraysh était quoi? C'était le qiyama, la fin du monde et la résurrection. Hada. Et donc, il y avait différentes catégories de personnes. Parmi eux, وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا النَّبَأِ. Certains ont accepté l'islam. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبْ. D'autres ont renié totalement et d'autres étaient dans le doute. Ils ne savaient pas. Ils attendaient comment est-ce que la situation allait évoluer. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens qui allaient suivre le prophète sallam ou peu de gens? C'est pour ça que les personnes qui ont le plus de mérite, c'était وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Les premiers qui ont accepté l'islam, ce sont ceux qui avaient le plus de mérite. Parce qu'ils ont accepté à un moment où tout le monde était contre eux. Donc, l'acceptation de l'islam au premier jour, c'était vraiment une preuve d'ikhlas, une preuve de sincérité. Donc, « minhum man shakka fihi wa taraddad », certains, ils avaient des doutes. Et donc, dans la suite du verset, « alladhi hum fihi mukhtalifun », donc « kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun », eh bien non, ils seront bientôt. Et la phrase est répétée une seconde fois avec plus d'insistance. Encore une fois, non, ils seront bientôt. C'est-à-dire que ces personnes qui ne croient pas au Ba'ath, qui ne croient pas à la fin du monde et à la résurrection, au jugement auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal, viendra un jour où ils vont le croire parce qu'ils vont le voir. Et ce tasdir, pour ne pas dire ce iman, cette acceptation du qiyama qui aura lieu après la mort, en voyant la situation, les ahwal du qiyama, c'est une acceptation qui ne leur apportera strictement rien. Et c'est là que nous voyons vraiment ce que notre Seigneur recherche chez le croyant, croire en l'invisible. Et c'est ce qui bloque énormément de personnes. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ceux qui se basent uniquement sur l'entendement, sur le côté rationnel, ils ne peuvent pas faire un pas vers la religion parce que pour eux, tant qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils ne peuvent pas y croire. Alors que parmi les premiers sifat, les premières qualités citées dans Sourate al-Baqara, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Alors que ces gens-là ne croient pas en l'invisible. Mais le jour de Qiyama, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, là-haut, ils vont comprendre, ils vont réaliser que tout ça c'était haq. C'est exactement comme al-hakum al-takathur, la tarawun al-jahim, thumma la tarawun ha ayn al-yaqin. Le jour de Qiyama, ils vont vraiment voir le Jahannam qu'Allah nous protège. Si de ce dunya ils n'y croyaient pas, ben là-haut vraiment ils vont prendre connaissance et ils vont voir de visu. Mais cette foi qu'ils vont avoir en ce jour, cette reconnaissance que ce message était vrai, cette reconnaissance n'aura plus aucun intérêt, aucune valeur, parce que c'est une reconnaissance qui est basée sur ce qu'on voit, sur ce que l'homme peut expérimenter, peut comprendre. Alors que ce que notre Seigneur nous demande, c'est de croire sans voir, c'est de croire sans entendre, c'est de croire à une révélation qu'Allah Azza wa Jal a fait à son prophète alayhi salatu wa salam et dont nous n'avons même pas été témoins. C'est là la beauté du iman, c'est là la beauté de la foi. Donc, comprenons et faisons passer le message, si une personne attend de voir des signes manifestes pour accepter l'islam, il est possible que la personne n'accepte jamais. Si une personne qui est dans la foi, il dit que pour avancer dans ma religion, pour être convaincu de certaines choses, je veux voir telle chose, je veux voir tel signe, je veux absolument voir en rêve telle chose, possible que la personne ne voit strictement rien, mais en aucun cas cela ne doit lui faire reculer. Parce que ce qui est important, c'est que le cœur soit convaincu. Vous allez dire, comment est-ce que le cœur est convaincu? Très simple. À partir du moment où on développe l'amour pour notre Seigneur, l'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on fait un effort dans l'accomplissement des bonnes actions, et qu'on fait un effort pour rester éloigné des péchés, le cœur va développer des sifats, des qualités. Le cœur va trouver la douceur de la foi, le cœur va devenir sensible aux lectures du Coran, le cœur va trouver la quiétude, la tranquillité à travers les bonnes actions, ce qui fait que l'homme sera convaincu de l'intérieur. Il n'aura pas besoin d'un signe extérieur qui va passer par un des cinq sens pour qu'il réalise, pour qu'il ait la conviction que oui, c'est vrai. Non, le message de vérité ne viendra pas de l'extérieur. Le message de conviction va émerger de son cœur parce que à partir de ce cœur va naître, va croître l'amour pour Allah, l'amour pour son prophète, l'attachement pour les bonnes œuvres, l'éloignement des péchés, la piété va s'installer. Donc, intérieurement, il aura une conviction à 100%. C'est de cette façon qu'on est et qu'on reste sur le sirat al-mustaqim, qu'on reste donc sur le droit chemin. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Ensuite, on va enchaîner avec plusieurs versets qui parlent des ni'mah, des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à la création, pas uniquement aux musulmans, des bienfaits dont jouissent l'ensemble de la création d'Allah Azza wa Jal. Ça commence au verset 6 et ça se termine au verset 16. C'est-à-dire 10 versets, 10 ayat de Rububiyya, 10 ayat où Allah Azza wa Jal rappelle les bienfaits qu'il a accordés à la race humaine concernant la création et d'autres bienfaits. Et comme on a dit en introduction, l'objectif, ce n'est pas une description. On n'est pas dans une œuvre littéraire où on va décrire la nature, on va utiliser des termes éloquents pour décrire la beauté des ruisseaux ou autre chose. Non, le but c'est que l'homme perçoivent ces choses avec la foi et non pas avec les yeux et qu'on arrive à faire le lien entre ces choses qui existent et le créateur qui les a créées et qu'on arrive à faire l'autre lien que celui qui les a créées. Mais c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Ramener l'homme vers l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration. Premier de ces versets, Alam naj'alil arda mihada. Mais avant de continuer, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite les bienfaits et là, dans ce cas, les bienfaits, en rapport avec la création, il y a trois réactions qui sont attendues. Wallahu alam, peut y en avoir plus. On en a trouvé trois. Il y a trois réactions qui sont attendues de la part de l'homme. Première réaction, c'est ce qu'on a dit, que en contemplant ces créations, ces créatures d'Allah Azza wa Jal, cela renforce notre unicité d'Allah dans l'ibad. Ça, c'est un point qu'on a bien expliqué. Deuxièmement, que l'homme arrive à méditer sur la grandeur du Créateur par le biais de sa création. Qu'en voyant un paysage qui est magnifique, en voyant la perfection d'Allah dans la création, on arrive à réfléchir, à méditer et à réaliser la grandeur du Khaliq, celui qui l'a créé, et c'est vraiment celui qui est Kamil, celui qui est parfait, puisqu'il a créé une telle diversité en termes de makhloukat, avec un système qui régit toutes ces créatures entre elles, entre le monde animal, minéral, végétal, et ainsi de suite. Donc, par la contemplation de ces makhloukat en déduit la grandeur du Créateur. Et troisièmement, que l'homme soit reconnaissant de profiter de ses bienfaits, qu'il fasse preuve de choukr, de reconnaissance, et qu'il utilise ses bienfaits dans le ta'a, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Il y a des fois où, dans cet verset, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme comment il a été créé, en parlant des yeux, en parlant des oreilles, en parlant donc les signes en rapport avec la création de l'être humain. Donc, en comprenant ces versets, le mu'min, il réalise la grandeur d'Allah, il fait preuve de reconnaissance, mais il prend également la ferme résolution d'utiliser ses bienfaits dans le ta'a, dans l'obéissance, et non pas dans les utiliser pour faire des péchés. Dans les versets qu'on va voir en rapport avec la création, on apprend à remercier Allah pour des bienfaits dont nous ne sommes pas souvent conscients. Lorsqu'on parle du ciel, de la terre, des montagnes, il y a des fois on se dit, on y réfléchit même pas. On ne pense même pas que ce sont là des ni'ma, des bienfaits de la part d'Allah, mais malheureusement, on se rend compte que c'était là des bienfaits à partir du moment où on les perd. À partir du moment où ces bienfaits disparaissent, soit momentanément, soit définitivement, c'est là que l'homme se rend compte que tout compte fait, ce qu'Allah nous avait accordé dans la nature, c'était des ni'ma et non pas tout simplement un élément naturel. 25 minutes, on a encore un peu de temps, inshallah. Donc, premier de ces versets, « Alam naj'alil arda mihada » « N'avons-nous pas fait de la terre une couche ?» Alors, en commentaire, la traduction, on va dire, elle est comme d'habitude approximative. En commentaire, les mufassirin, rahimahumullah, ils expliquent, par des termes, beaucoup de détails, mais nous, on peut résumer ça en une phrase, c'est qu'Allah, Rabbul Izzah, lorsqu'il crée la terre, il crée la terre avec une constitution qui est adéquate pour que l'homme puisse y habiter, puisse y construire une maison, demeure et tout ce qu'il a besoin, et pour que l'homme puisse y faire pousser plantes, arbres, fruitiers, tout ce qui est nécessaire pour que l'homme mange et que ses animaux également mangent. On peut se dire que oui, ça fait pas. Est-ce que vraiment c'est un bienfait? Maintenant, imaginez que les terres devenaient stériles complètement. Nous, on a l'impression que, écoutez, même s'il n'y a plus rien qui pousse, moi je vais score, je vais carrefour, j'achète à manger. Hein. Oui, mais à l'origine, à la base, est-ce que tout ne provient pas de la terre? Les céréales avec lesquelles on fait farine, pain et transformation, je ne sais pas combien de transformations, parfois chimiques, parfois n'importe quoi, les biscuits, tout ce qu'il y a et ainsi de suite. Il y a ceux qui se disent que même s'il n'y a plus de fruits, de légumes, moi je ne mets pas de faim, je mange telle chose. Ou alors je suis carnivore, je mange que de la viande, mais même cet animal, que ce soit le bœuf, le poulet, le chameau, le mouton ou autre chose, est-ce qu'il n'a pas besoin de la terre? Est-ce qu'il n'a pas besoin des herbes qui poussent? Est-ce qu'il n'a pas besoin de l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et qui vont donc permettre à ces plantes de pousser, ou que l'eau qui va pénétrer dans les entrailles de la terre pour en faire des nappes phréatiques et pour en faire des puits où l'homme va puiser l'eau et ainsi de suite. À la base, tout vient de la terre et du ciel. On va voir, il y a deux bienfaits qui sont juxtaposés, la terre et puis il y a l'eau. Et puis le Mufassir, Mashallah, il fait une relation magnifique, et il y a le soleil aussi. Il fait une relation magnifique entre nuages, soleil et terre, c'est de là que vient la vie. C'est de là que viennent tous les ni'ma. Parce que avec le soleil, vous savez que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Mais s'il y a trop de soleil, il n'y a plus de vie aussi. Donc le juste milieu qu'Allah subhanallah, nous a accordé, on a besoin du soleil pour qu'il y ait de la vie. On a besoin de pluie. On a besoin de pluie, de l'eau qui vient du ciel pour que tout pousse et pour que les créatures puissent boire également. Il a dit que ce mélange entre pluie, eau donc qui pénètre la terre, et le soleil, donc les rayons, je ne sais pas comment on appelle ça, le soleil qui va donc inonder la terre, ça permet aux plantes de pousser. C'est de là que vient la vie. Donc vous voyez la relation entre les bienfaits et le résultat qui est donc la vie et la possibilité de voir les arbres, les fruits ainsi de suite pousser, et les animaux boire et manger, et nous aussi. Donc ces ni'ma dont on est parfois inconscient, voilà les premiers ni'ma qui sont cités dans Surat al-Naba. Et les Quraysh, les Mekwa, qui sont, subhanallah, on est à une époque où les Arabes cultivaient donc la terre, ils savent l'importance de la pluie. Demandez à un agriculteur l'importance de la pluie. Demandez à un agriculteur l'importance d'avoir un sol de bonne qualité. Et demandez à un agriculteur, imagine que ces 2 hectares que tu possèdes devenaient stériles du jour au lendemain. Il dit que c'est fini pour moi. Je perds tout, je n'ai plus rien à faire à cet endroit. Imaginez que l'endroit où tu puises l'eau, il n'y a plus d'eau du tout. Il dit que c'est la fin de c'est la fin de la vie. On doit quitter cet endroit, aller habiter ailleurs, on va trouver de l'eau, et ainsi de suite. Donc tout démarre de ces bienfaits que nous ne voyons pas forcément, mais qui sont à la base de tous les autres bienfaits dont nous sommes par la suite conscients. Donc la constitution de la terre. Alam naj'alil arda mihada. Après, il y a des détails, on ne va pas le citer, que la terre n'est pas trop, comment on appelle ça, n'est pas d'une consistance trop molle, qu'on ne peut pas mettre des fondations, qu'on ne peut pas faire des constructions, ni trop aride où il n'y a rien qui pousse. Donc, le juste milieu. Le juste milieu. Hada. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada. et placer les montagnes comme des piquets. Et ça, on avait vu dans d'autres versets que les montagnes assurent un rôle d'équilibre. Les montagnes assurent, bi'idhnillah, un rôle d'équilibre, stabilisent, on pourrait dire, la couche terrestre. Si je me trompe dans les termes géologiques, pardonnez-moi, mais les montagnes assurent un certain équilibre. Et en commentaire, le Mufassir, rahimahullah, dit que les géologues aussi, ils arrivent à cette déduction de la, que la présence des montagnes est essentielle sur la terre, subhanallah, et c'est là la création d'Allah, azza wa jal. Et donc, comme on a dit, quand on parle de ces bienfaits en rapport avec la nature, on ne réalise pas forcément que ce sont là des bienfaits, mais à partir du moment où on les perd, on se rend compte que c'est un bienfait. Imaginez qu'Allah nous protège qu'à l'île de la Réunion, bon, on n'est pas dans un endroit où il y a une activité sismique importante, mais imaginez qu'on entre dans une phase où il y a un séisme tous les jours, tous les deux jours, et que les montagnes n'assument plus ce rôle d'équilibre. Et du coup, c'est là qu'on va se rendre compte que quand on habitait sur cette terre qui ne tremblait pas, qui ne bougeait pas, ou que nos constructions restaient stables, c'était là les plus beaux jours qu'on avait vécu. Et maintenant, tous les deux jours, on a des séismes, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas attendre qu'on perd les bienfaits pour reconnaître que ce sont là des ni'ma de la part d'Allah, azza wa jal. Wa khalaqnakum azwaja. Ah, ça, c'est croustillant. Wa khalaqnakum azwaja. Nous vous avons créé en couple. Alors, il y a pas mal de mufassirin qui ont commenté ce verset. Ils ont dit qu'à partir de la même matière, d'une goutte de sperme, Allah Rabbul Izza va créer dhakar ou alors untha. Il y aura soit des garçons, soit des filles, soit des personnes de sexe masculin, soit de sexe féminin. Avec cette même goutte de nutfa, Allah Azza wa Jal va créer des gens, certains qui seront grands, d'autres petits, certains qui seront gros par nature, d'autres qui seront maigres, certains qui seront blancs, d'autres qui seront plus foncés, d'autres qui seront jeunes, asiatiques, d'autres qui seront noirs. Et subhanallah, cette goutte de sperme, c'est la même. À partir de ça, Allah Rabbul Izza peut créer, subhanallah, une multitude de couleurs et d'apparences physiques. Vous savez que, rattrapez-moi si je ne me trompe, l'iris, c'est bien l'iris, hein, dans l'œil, c'est quelque chose qui est propre à chaque être humain. On ne retrouvera pas deux personne, même des jumeaux, si je ne me trompe pas, même des jumeaux, ils n'auront pas le même, comment on appelle ça, la même pigmentation de l'iris. Vous voyez, parfois dans les films d'espionnage, il faut regarder dans un truc, même quand vous passez à l'aéroport de Dubaï, vous avez remarqué, vous dites de regarder là-haut, ils n'ont pas besoin de votre photo, ils prennent en photo l'iris de votre œil, parce que ça c'est la plus belle pièce d'identité pour eux. Quand il vous dit de regarder, rester dans le rond et regarder là-haut, en fait c'est ça. Ils zooment sur l'œil et donc l'iris est capturé et mis dans l'écran au moment où c'est exactement qui vient de passer. Dans d'autres pays, en Arabie Saoudite, quand vous entrez à Jeddah, ils prennent vos empreintes. Surtout pour les messieurs, vous dites de mettre le pouce, l'index et puis telle main et puis la main gauche. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas deux êtres humains de ce monde qui ont les mêmes empreintes digital. Imaginez le nombre de makhlouq, le nombre d'êtres humains qui sont venus sur cette terre depuis Adam alayhi salam jusqu'au Qiyam. À combien de milliards, de milliards, de milliards, Allah seul le sait. Mais c'est personne, il n'y a pas deux personnes qui ont ces mêmes caractéristiques. Ça, et ils viennent tous, ils ont tous été créés de la même matière. Ça, c'est la puissance d'Allah dans la création. Maintenant, l'autre commentaire qui est repris, et là on retrouve plutôt dans Ibn Kathir, dans les Mutaqaddimin, les anciens par les Mufassirin, disent que lorsqu'Allah Rabbul Izzati wa khalaqnakum azwaja, c'est un homme et une femme. Il dit que la hikmah d'Allah, dans le fait qu'il y ait l'homme et la femme, c'est pour garantir le renouvellement des générations. Ceux qui prouvent, et vous n'avez pas besoin de prouver, c'est fitra, c'est dans l'inéité, ceux qui prouvent, par le biais de ce verset, que la création d'Allah, selon sa volonté, selon sa sagesse, selon son organisation, c'est que l'homme cohabite avec une femme, et non pas un homme avec un homme, et non pas une femme avec une femme. Ça irait à l'encontre de l'organisation de notre Seigneur. Et la preuve la plus évidente, c'est que le renouvellement des générations ne serait pas assuré. On ne tient pas un discours homophobe, mais la liberté d'expression qui est adulée par beaucoup de personnes nous appartient également. On est en droit de dire que dans un couple homosexuel, que ce soit monsieur ou madame, comment est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Ils vont adopter. Mais est-ce qu'en adoptant, est-ce qu'on garantit le renouvellement de génération? du tout. Imagine dans un pays, en France, en Allemagne, on se plaint d'un problème de natalité. Bon, sauf qu'en France, il y a les musulmans qui sont là, donc eux, ils activent. Mais dans certains pays comme l'Allemagne, le Japon, hein, c'est des pays où la natalité est très 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 faible. Ben, imaginez qu'on est dans un pays où, comme certains le souhaitent, d'accord, cette émancipation sexuelle, d'appeler ça émancipation, ben, tout le monde est homosexuel. Les messieurs avec les messieurs, les dames avec les dames. Ben, dans 50 ans, il n'y a plus personne. Dans 50 ans, ce village ou cette ville ou ce pays est mort. Il n'y a plus personne. Parce qu'il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de naissance. Vous voyez comment est-ce que ce comportement sexuel va à l'encontre de l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Analysez l'histoire de Nuh alayhi salam. Vous vous rappelez du verset, si quelqu'un a le verset en tête? Ah, le verset, on lit ça souvent, Fajr. Et là, on se rappelle plus du verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal demande à Nuh alayhi salam de réunir sur le arsh, sur le arsh, fatigué, fin de semaine. Le arsh, c'est le trône. Sur l'arche, j'ai arabisé le mot arche, d'accord, ça arrive. De réunir sur l'arche, sur le bateau, subhanallah, un couple de chaque animal. Pourquoi un couple? Pourquoi pas uniquement un éléphant? Pourquoi pas uniquement un chameau? Quel que soit l'animal, un chat, un chien? Non, c'est qu'il doit y avoir un mâle et une femelle pour que lorsque tout sera détruit, à partir de ces couples d'animaux, il y aura le renouvellement de génération. Ces créatures ne vont pas disparaître. Il n'y aura pas l'extinction de ces races, de ces créatures. Parce que s'il n'y a pas, le sexe masculin et féminin, il n'y a pas de renouvellement de génération et c'est la mort. Vous voyez que, à la base, à travers ce verset, nous comprenons que la volonté d'Allah, l'organisation d'Allah, c'est qu'il y ait dhakar wa untha. Et si on va un peu plus loin à travers ce verset, ça nous ramènerait vers autre ayat de l'Allah Rabbul Izzati wa min ayatihi, parmi les signes d'Allah. Ça, c'est un des signes d'Allah. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Ce sont les versets qu'on cite souvent dans les cérémonies de nikah, de mariage. Il y a que parmi les signes d'Allah, le fait que Allah Rabbul Izzah crée à partir de l'homme une compagne, traduction approximative, li taskunu ilayha, auprès de laquelle l'homme trouvera là, selon un des mufassirin, un des opinions des mufassirin, li taskunu, c'est du mot sakina et pas du mot habité. Non, li taskunu, vous y trouverez la sakina. Et en commentaire, ces mufassirin disent donc que l'homme trouve réellement l'apaisement psychologique, la tranquillité du cœur lorsqu'il est marié et lorsqu'il est avec son épouse. Et on n'a qu'à analyser, là si on va analyser le frère qui fait le masjid, il ne sera peut-être pas content de notre analyse, on a juste à analyser quand le prophète alayhi salatu wassalam reçoit la première révélation sur la Sourate Al-Alaq avec de la part de Jibril, une créature dont il ne connaît pas l'identité. C'est qui cette créature? Il veut quoi? Quel est ce message? Pourquoi il m'a serré trois fois? Pourquoi il m'a révélé ces paroles qui restent dans ma tête, que le prophète ne peut plus oublier? Parce que wa inna lahu lahafidhun, le prophète mémorise ces versets, il ne les oublie pas. Et le prophète ne comprend pas aussi pourquoi est-ce que ces paroles-là restent et résonnent et restent en lui et il ne peut... C'est comme si c'est quelque chose qui était imprégné de son corps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, affolé, angoissé, apeuré, immédiatement va voir qui? Abu Talib, son oncle. Est-ce qu'il va voir Abu Jahl, son oncle, qui à l'époque l'aimait beaucoup? Est-ce qu'il va voir Abu Lahab, son oncle, qui à l'époque l'aimait beaucoup aussi? Est-ce qu'il va voir d'autres Zu'ama Quraysh? Non, il va voir sa femme, Khadija radiallahu anha. Les savants disent que l'homme se doit de se confier à sa moitié, à son épouse, parce qu'auprès de l'épouse, les taskunu ilayha, auprès de l'épouse, l'homme va trouver le réconfort. C'est pour ça, lorsque dans le hadith du Prophète, il cite les qualités qu'on doit rechercher chez le conjoint, la première des qualités, c'est l'idiniha. Ensuite, on va regarder l'ijama, l'iha, on va regarder l'inasabiha. Certes, la beauté, c'est important. Certes, la condition de la personne, c'est important. Mais awal shaykh, le plus important, c'est le din. Est-ce que c'est une femme ou vice-versa, c'est un homme qui est pratiquant, qui a la crainte d'Allah? Si cette personne a les qualités du croyant, assurément, il y aura la qualité d'écoute. Assurément, il va développer les qualités de l'époux vertueux ou de l'épouse vertueuse et mutuellement, ils vont trouver la tranquillité l'un auprès de l'autre. C'est, subhanallah, c'est là, là, l'organisation de la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Traduction approximative. Et Allah a mis entre vous l'amour et la compassion. Et Ar-Rahma, c'est quand on dit mawadda, on est vraiment dans les sentiments de l'amour, dans, de vraiment aimer la personne. Mais quand on parle de rahma, c'est plus de la pitié, de la compassion. Et c'est une notion qui est quasiment inexistante de nos jours. De nos jours, l'amour, et la définition de l'amour, c'est que la mawadda. Et encore, hein, quand on voit ce qui est exposé à travers les séries, les films et tout, c'est un amour basé sur la contemplation, sur la beauté physique. À partir du moment où la personne n'est plus beau, ou on ne juge pas, on juge que la personne n'est plus assez belle ou qu'on a trouvé quelqu'un de plus beau, de plus belle, ben on va la quitter, on va la, en Dieu mais la plaquer pour aller vers quelqu'un qui a plus d'atouts physiques. C'est la conception de l'amour de notre société. Alors que dans notre dîn, on parle de mawadda et de rahma, de pitié, de compassion. Que l'homme fait tout ce qu'il peut pour que son épouse soit heureuse auprès de lui. Que l'épouse fait tout ce qu'elle peut pour que son mari soit heureux, épanoui et trouve la tranquillité lorsqu'il rejoint la demeure le soir. C'est de cette façon qu'on a la stabilité dans les familles. C'est de cette façon qu'on trouve la quiétude. C'est de cette façon qu'Allah a organisé les choses. Une femme qui, je ne porte aucun jugement, ce n'est pas un avis extrême, c'est mon opinion, ma liberté d'expression. Une femme qui se décide de se lancer dans une carrière professionnelle très complexe, qui ne lui laisse plus de temps pour être présente à la maison, pour gérer le foyer et pour s'occuper de l'éducation des enfants, on peut dire que c'est un couple qui fonctionne d'une façon qui va à l'encontre de la volonté d'Allah Rabbul Izza. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler, c'est pas ce que je veux dire. Maintenant, si elle peut aménager des créneaux horaires qui lui permet de faire ce qu'elle a besoin de faire, une femme peut être dentiste, peut-être gynécologue, peut-être médecin, des métiers qui peuvent être profitables pour l'ensemble de la Oumma, surtout pour les dames, mais que cette occupation ne l'empêche pas d'assurer cette fonction qui est essentielle, Ummul Bayt. La maman, c'est pas uniquement l'épouse, c'est celle qui contrôle la maison. C'est la madrasa, c'est l'école également pour les enfants, avant même qu'ils soient scolarisés. Ça c'est quelque chose de fondamental. Donc on revient, وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et les savants disent que لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا la sakina. Vous voyez, il y a trois notions qui sont citées de ce verset. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, la tranquillité du cœur. مَوَدَّة, l'amour réel. Rahma, la compassion. On ne peut pas trouver ces trois notions dans une relation entre deux hommes. On ne peut pas trouver ces trois notions dans une relation entre deux femmes. On ne peut pas trouver ces trois notions dans une relation où il n'y a pas de lien sacré du mariage. Dans une relation de concubinage, on ne retrouvera pas ces trois notions. Un homme et une femme peuvent cohabiter, mais ils ne trouveront ni la sakina, ni la mawadda, ni la rahma, tant qu'il n'y aura pas l'ordre d'Allah, tant qu'il n'y aura pas, pardon, le respect des ordres d'Allah par le biais du nikah. Tant qu'ils sont dans une relation d'adultère, il n'y aura aucun bénéfice du nikah qui va apaiser leur cœur, bien au contraire. Il y aura shaitan, iblis, alayhi la'natullah, qui sera toujours présent parce que ce sont des personnes qui évoluent dans une situation où ils sont en contradiction avec les ordres d'Allah. Ce sont des gens qui vivent dans le fisq, dans les pires des péchés. Ce sont les péchés qui se répètent et qu'on accomplit sans qu'on ait de crainte d'Allah, sans crainte de représailles ou sans crainte même de provoquer la colère de notre Seigneur, d'Allah, Rabbul Izza. Donc voilà, donc petit commentaire, on s'est un peu étalé là-dessus, mais c'est important, concernant wa khalaqnakum azwaja, qui nous permet de comprendre un petit peu mieux, qui nous permet de connaître quelles sont nos valeurs à nous concernant ce discours qui devient ambiant, wallah musta'an, signe de qiyama, qui devient un petit peu envahissant, qui devient la norme, que on a droit à une émancipation sexuelle de ce type, mais nous on a nos textes qui nous prouvent que la création d'Allah, elle est faite de cette façon, un homme et une femme, et c'est de cette façon que l'homme et la femme trouvent la tranquillité psychologique, par la suite spirituelle, et ça garantit également le renouvellement de génération. On continuera la suite la prochaine fois. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ. Il aurait été bien de terminer avec ça, parce qu'on va bientôt dormir. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ. Et désignez votre sommeil pour votre repos. Ça, on va développer la prochaine fois. Mes chers frères, dormir, c'est un ni'ma. C'est un bienfait. Et vous savez quand est-ce qu'on se rend compte que c'est bien de dormir? C'est à la protège qu'on n'arrive plus, à dormir. Quand une personne devient insomniaque, c'est là qu'il se rend compte que avant, je posais ma tête sur l'oreiller, c'était parti. Il y en a qui disaient, bon, d'autres, trop vite, il n'y a pas causé coup, il n'y a pas discuté, on pose la tête. On se disait que ben, c'est normal, mais quand une personne arrive, souvent quand on devient un petit peu âgé, quand une personne prend un peu de l'âge et qu'il y a des soucis, on gère un peu moins bien le stress, c'est là que, bon, un peu d'hypertension, il y a pas mal de choses, la personne n'arrive plus à dormir. Il a besoin de prendre des médicaments, il a besoin de se doper pour dormir. Et là, on se rend compte que, tu sais, quand j'étais jeune, là, assis, debout, n'importe où, je pouvais dormir. Surtout dans les programmes, on dormait facilement et tout. Donc, on se rend compte que dormir, c'est un ni'ma. Et dormir, ça nous permet de faire... Ah, je vais chercher le terme informatique, mais je ne suis pas très, très informatique. Ça nous permet de faire... subhanallah, comment vous appelez quand vous reparamétrez un truc là? Laissez tomber. Hein? Comment? Reset? Mais ça, c'est de l'anglais, ça. Mais si tu me dis reset, tu me dis anglais avec l'accent anglais, il y a écrit. Il y a un autre terme, ça nous permet de reprogrammer, on pourrait dire, j'ai oublié le terme, formater, barakallah fik. Ça nous permet, on va garder la langue de Voltaire, ça nous permet de formater l'esprit. Le soir, vous rentrez chez vous, vous avez plein de soucis, vous avez des prises de tête, vous avez comme des nœuds partout. Subhanallah, après ce qu'on appelle une bonne nuit de sommeil, effectivement, on se lève le matin, on est plus frais. On est plus frais, on est capable de revenir sur les problèmes de la veille, mais on est posé, on a plus de recul, on n'agit plus de façon impulsive, on n'agit plus avec les sentiments, mais on est capable de peser maintenant le pour et le contre, de consulter les gens et de trouver le juste milieu. Tout ça, c'est les fawa'id, ça c'est les avantages du naoum. Waja'alna naoumakoum, waja'alna naoumakoum, subata. Notre frère dit que naoumakoum, il veut mon subata aussi, voilà, moi sinon j'aimerais bien les dormir, et fait de la nuit, et désigne votre sommeil pour votre repos. C'est là également un bienfait de la part d'Allah, Rabbul Izzah, qu'on va, Inch'Allah, continuer à développer la semaine prochaine. On va parler également du jour, de la nuit, on va parler du soleil, du rôle essentiel du soleil, du rôle essentiel de la pluie également, et de tout ce qui découle de la pluie, et ensuite, on va voir à partir du verset 17, Inna yawm al-fasli kana miqata. Immédiatement après qu'Allah ait cité tout ce qu'il vous a accordé, n'oubliez pas, tac, il y a un qiyam, il y a un retour auprès d'Allah. Et ce qui est magnifique, voyez, il y a le parallèle dans le début de An-Naba, c'est qu'Allah cite certains points de la création, et quand il y a Inna yawm al-fasli kana miqata, vous avez un rendez-vous avec votre Seigneur, on revoit ces créations, mais qui sont détruites. On revoit le ciel, mais qui est une porte ouverte, qui était, subhanallah, le ciel était, on pourrait dire, éclaté complètement. On reparle des montagnes, mais des montagnes qui sont devenues en poussière. C'est-à-dire, ce qui a été rappelé au début, et qu'on dit, oui, c'est vrai, je constate, c'est comme ça, qu'on parle, attention, il y a un qiyama, retour vers Allah, et voyez, on retrouve la terre, mais elle n'existe plus. On retrouve la montagne, mais elle est en poussière. On retrouve le ciel, mais il est craquelé, il est cassé de partout. Et là, nous voyons toute la beauté qu'il y a dans, et toute l'éloquence qu'il y a dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza. Inch'Allah, la prochaine fois, on continue. Et comme objectif, on s'était fixé qu'avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, on complète Amma yatasa'aloun. Qu'Allah nous accède notre tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et que la réalité de ces paroles pénètre le cœur pour que nous devenions de meilleurs croyants, et que notre iman en Allah augmente. Nous nous approchons, j'allais dire dangereusement, mais normalement, semaine après semaine du mois de Ramadan, c'est incroyable comment le temps passe. Wallahi l'azim, le temps passe de plus en plus vite. C'est incroyable. Je me rappelle encore l'organisation du Tarawih de 2014. Et là, on y est. Ajib. C'est comme si il y a quelques mois qui s'étaient écoulés. Donc, mes chers frères, je suis en train d'y penser après la salat. Je dis qu'il faut vraiment qu'on fasse passer ce message avec la Jamaat qui est là, mais avec nos épouses qui sont à la maison, donc malheureusement, et faire passer ce message que n'attendons surtout pas le début de Ramadan pour le changement. Le changement, c'est maintenant. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont dit ça avant, mais quand on dit, le changement, c'est maintenant, c'est Rajab. Est-ce qu'on peut se fixer comme objectif que mes bonnes habitudes du Ramadan, je commence à les prendre au mois de Rajab? Au premier Rajab, je me décide de me coucher plus tôt le soir. Au mois de Rajab, je commence, pour ceux qui sont, mashallah, les grands personnages, puis ils le font déjà, mais les autres, comme nous, à partir du premier Rajab, je commence à me lever une heure avant Salat al-Fajr. Pas 10 minutes avant, une heure avant, pour faire la prière de la nuit, pour commencer à faire du'a. Pendant le mois de Rajab, je commence à jeûner régulièrement lundi, jeudi et 13, 14, 15, afin de s'habituer un peu au rythme du Ramadan, au rythme de l'ibada, de qiyamul layl, des du'as, et je commence également au premier Rajab à lire plus le Coran. Je commence à dégager déjà mes créneaux pour la lecture du Coran, afin que, bi'idhnillah, on a eu un entraînement Rajab, on aura eu un entraînement Sha'ban, et lorsque le mois de Ramadan commence, subhanallah, on a istiqama sur les actions, mais on va se retrouver avec un flux spirituel qui va nous tomber sur le cœur, la rahmat d'Allah qui descend sur la Ummah pendant le mois de Ramadan, qui fait que les cœurs deviennent attachés aux bonnes œuvres. Nous sommes déjà dans le bon train, et on va voir qu'il y aura une impulsion, on ira encore plus vite. Wallahi l'azim, ça sera profitable. Mais ça ne peut pas venir que de nous. Nous devons lever les mains, demander à notre Seigneur Allah de nous accepter, de nous donner la possibilité de commencer les bonnes œuvres au plus tôt, qu'Allah nous accepte pour donner le meilleur de nous-mêmes pour le Ramadan qui approche. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.